Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. On parle souvent de la rivalité père-fils, une rivalité qui se concentre d'ailleurs assez souvent quand même sur la réussite professionnelle. Mais depuis que les femmes travaillent et percent dans de nombreux domaines, politiques, économiques, médiatiques, cette rivalité, autrefois seulement entre les hommes, peut aussi finalement apparaître entre les pères et leurs filles. Ces dernières semaines, d'ailleurs, l'actualité politique a été marquée par la lutte au sein de la famille Le Pen. On a un petit peu l'impression, d'ailleurs, que Jean-Marie Le Pen fait tout pour saboter la réussite de sa fille Marine. Le monde politique n'est pas le seul concerné par ces déchirements familiaux. Alors, la rivalité père-fille ressemble-t-elle à la rivalité père-fils? Quelle est la particularité, d'ailleurs, de ce lien? Mais aussi, comment sortir de ces problèmes de rivalité? C'est ce qu'on va voir avec mon invité, Daniel Brun, qui est psychanalyste, membre de l'Espace Analytique et présidente de la société Médecine et Psychanalyse. Elle a publié « L'insidieuse malfaisance du père » aux éditions Odile Jacob et tout récemment, et on vous recevra d'ailleurs pour reparler de ce livre prochainement, « Une part de soi dans la vie des autres » aux éditions Odile Jacob. Si vous avez envie d'intervenir, à la fois d'apporter un témoignage, un point de vue ou de poser des questions, un téléphone, le 33 1 84 22 75 75. Dans cette émission, on aura également au téléphone Mamadou Mbodge, qui est psychologue, psychothérapeute à Dakar, au Sénégal. Et pour terminer, comme tous les jeudis, on retrouvera la chronique sexualité du docteur Catherine Solano.
RFI.
Daniel Brun, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé pour parler de ce sujet difficile, de cette question de la rivalité père-fille, mais qui nous a paru émerger ces derniers temps. On connaissait cette rivalité père-fils. Est-ce que c'est vraiment le fait que les femmes travaillent finalement qui fait émerger peut-être cette rivalité père-fille?
Sans doute, parce que les femmes travaillent et que donc elles s'inscrivent dans la lignée du père sur un territoire commun, une entreprise commune, une idéologie commune à protéger, à faire fructifier. Oui, dans ce champ-là.
On a moins de connaissances, on a moins de recherches sur cette question, mais on la sent émerger quand même.
On la sent émerger, des recherches. Il doit y en avoir, même si on les a pas toutes présentes à l'esprit. Mais effectivement, le statut de la femme ayant changé, on peut concevoir que elle développe davantage ses sentiments négatifs à l'égard du père dans certaines circonstances, alors qu'auparavant, parce qu'elle ne travaillait pas, parce qu'elle n'était pas inscrite de la même manière dans la vie sociale et culturelle, elle avait davantage d'inhibition pour exprimer quelque chose de négatif à l'égard du père. Mais il faut quand même reconnaître que cette rivalité père-fille est une situation d'adulte. Ça n'est pas une situation d'enfant.
Alors que la rivalité père-fils, elle commence tout petit, c'est
oui,
ça?
Oui, elle commence tout petit. L'enfant-fille, ou le garçon, enfin l'enfant de toute façon, même si ça commence plutôt pour le garçon qui le ressent dans une rivalité avec le père pour l'amour de la mère, quoi qu'il en soit, dans l'enfance, la parole est beaucoup plus difficile, les mots sont beaucoup plus difficiles à trouver pour exprimer des positions négatives vis-à-vis du père. Ça peut s'agir, ça peut s'actualiser dans la vie quotidienne, mais ça ne se dit pas. Donc la rivalité père-fille aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui se joue à l'âge adulte et notamment quand le père vieillit. Comme si plus sa puissance décroît au fur et à mesure qu'il avance en âge, plus la parole se libère et tout ce qui est de l'ordre négatif ou des comptes à régler s'exprime.
Plus la fille se permet d'émettre des critiques. On va pas parler pendant cette émission longuement de l'histoire de la famille Le Pen, mais quand même si on prend cet exemple, on a l'impression là, en l'occurrence, est-ce que je me trompe en disant ça, que Jean-Marie Le Pen essaie de saboter la réussite de sa fille? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là?
C'est ce qu'elle dit, mais c'est peut-être pas ce qu'il a l'impression de faire. Donc il y a la question, je pense que ce qui se joue dans la famille Le Pen, c'est peut-être parfois ce qui se joue dans une entreprise familiale, parce que c'est une entreprise familiale et où chacun
où il y a des désaccords tout simplement.
Où il y a des désaccords et où la fille promue par le père à cette place a une autre façon de gérer l'entreprise et que le père se sent mis à l'écart, mis en défaut. Et donc, il réagit quand il a encore la possibilité de réagir. À mon avis, c'est une affaire d'entreprise familiale.
Mais on a l'impression que c'est pas, mais de façon générale, dans ces situations-là, c'est pas simplement un désaccord, finalement. Ça devient très vite passionnel parce que justement, il y a des relations familiales.
c'est passionnel parce que l'histoire d'enfant de la fille la lie forcément à son père, et c'est passionnel parce que à la place où est la fille aujourd'hui, elle noue de nouvelles alliances, et au nom de ces nouvelles alliances et des nouveaux alliés qu'elle se trouve au sein de l'entreprise, eh bien, elle se sent épaulée pour contester
le père,
finalement. Le père et la manière dont il se met en travers de ses projets.
Si on sort donc de l'histoire de la famille Le Pen, qu'est-ce qui se joue dans ces rivalités, d'ailleurs qu'elles soient père-fille ou père-fils? C'est quoi, de la jalousie, de la haine, de l'amour, un peu tout ça?
Oui, un peu tout ça, de la jalousie, de l'amour, de la haine. Mais il y a le tremplin de cette entreprise familiale dans laquelle on se trouve et qui incite la fille à faire mieux ou autrement que le père. C'est le autrement qui vient et le père n'est plus protégé. Enfin, toutes ces défaillances font de lui, ou toutes les critiques qui peuvent lui être adressées font de lui un anti-héros, alors que dans l'enfance il était le héros, mon père ce héros au sourire si doux, comme le dit bien Victor Hugo.
Alors on a voulu savoir ce qui se passait un peu dans le monde de l'entreprise justement là-dessus. Eva Escandon a 52 ans, elle est PDG du groupe SMSM, Société Maritime de Soudure et de Montage, une entreprise qui a été fondée par son père en 1976, qui représente 6 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Elle est présidente des femmes chefs d'entreprise en France. C'est en 1993 qu'elle rejoint la direction de l'entreprise pour aider son père justement à sauver l'entreprise du dépôt de bilan. Une co-direction qui a été difficile, conflictuelle jusqu'au départ à la retraite de son père en 2009. Des propos recueillis par Tout Neuf Mandy.
Je suis arrivée par hasard et j'étais, moi, très différente du contexte, puisque effectivement j'étais une femme, j'étais pas technicienne, j'étais la fille du patron, j'étais jeune. Dans quelques années, les choses ont un petit peu dérapé. C'est-à-dire, quand je suis arrivée dans l'entreprise, mon père avait déjà 50 ans. Le temps de la succession arrivant, c'est pas évident de partir. C'était son bébé. Le fait de se dire qu'il devait laisser ça progressivement à sa fille, il n'était peut-être pas complètement convaincu que j'allais pouvoir assumer. Après, il y a le côté père-fille, le côté protectionniste dans un monde un peu masculin. Donc je pense que ça y contribue aussi. Donc je pense qu'il avait un petit peu peur. La date de l'échéance de départ arrivant, c'est vrai qu'il s'est un petit peu accaparé toutes les fonctions. Et il avait de plus en plus de difficultés à laisser faire, parce qu'il ne voulait pas partir. Donc on commençait à prendre des décisions, en fait, un peu différentes. Et c'est très compliqué au niveau management, parce que les salariés, en fait, se retrouvaient entre nous deux.
Et donc, comment ça se traduisait concrètement dans votre quotidien, alors ?
Par des relations extrêmement virulentes, conflictuelles, des relations de force, des menaces, parce qu'à un moment donné, moi, je ne pouvais pas accepter qu'il aille à l'encontre de certaines de mes décisions, parce que ça mettait en cause mon autorité et que c'était dangereux pour l'entreprise. On n'arrivait plus, à un moment donné, donc à la fin, on n'arrivait plus à prendre des décisions objectives entre nous avant de les diffuser au personnel. Donc il n'y avait plus de management réel et correct dans l'entreprise. À un moment donné, bon, moi je lui ai proposé, je lui ai dit qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc on avait deux entreprises, j'ai dit t'en prends une, j'en prends une, tu gardes les deux, je m'en vais, je vais ailleurs. En fait, c'est vrai que ça a été douloureux, j'ai dû quand même en partie le menacer parce que c'était plus possible. Et c'était très compliqué entre nous, parce qu'en fait, quand on est dirigeant d'entreprise, on travaille jour et nuit, on travaille le week-end, on travaille tout le temps, donc on travaille en famille.
Est-ce que la rivalité était telle que ça allait jusqu'à une certaine entreprise de sabotage, d'entrave à ce que vous faisiez ?
Oui, c'est l'impression que j'ai eue. Je me disais, ça fait 20 ans que je fais mes preuves, et il est encore en train de tout remettre en question. Donc c'est vrai que ça a été douloureux, ça a été un passage compliqué pour moi. Et en même temps, ça me mettait des doutes également dans mon esprit. Donc j'en voulais un petit peu, au lieu de me dire, tu es parfaite pour ça, tu vas réussir, c'est merveilleux, t'es une bonne chef d'entreprise et tout. Il me disait le contraire, donc c'est vrai que c'est pas facile. Après, moi j'avais trouvé une solution par rapport justement à notre relation conflictuelle, c'est que je me suis beaucoup investie à l'extérieur de l'entreprise. Donc ça lui donnait aussi à lui le moyen de me répéter, mais tu n'es jamais là, tu ne t'occupes pas de ton entreprise.
Vous avez sauvé la société, vous le disiez, du dépôt de bilan. Et aujourd'hui, vous en avez fait un groupe florissant. Direz-vous que votre père était jaloux de votre réussite?
C'est compliqué comme question. Je pense qu'il y avait plus de la peur et c'est dans ses représentations, en termes de représentation, c'est le fait que je sois une femme et qu'il avait peur que je ne réussisse pas. Et le côté positif, c'est que finalement, ces rapports m'ont toujours donné la combativité et la force pour me battre. Donc j'ai un fils, mon père l'a pas mal sensibilisé à travailler avec nous, mais c'est vrai qu'au départ j'étais pas pour parce que c'est plus facile de travailler en dehors de la famille que de travailler en famille.
Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que votre père est conscient du mal qu'il vous a fait ou qu'il vous fait?
Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il en a conscience, il faudrait qu'on en parle. Aujourd'hui, il est beaucoup plus serein. Moi aussi. Depuis quelque temps, on arrive à parler du travail et à s'écouter sans s'agresser.
Comment êtes-vous arrivé à pacifier les relations?
Oh, je pense que c'est la distance. Les premières années, quand il revenait, parce qu'il revient une fois par an, j'étais extrêmement angoissée. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il va dire? Et puis c'est vrai que quelque part, en termes de légitimité, je commence à prendre ma place. Et que c'est pas parce que c'est une entreprise technique que je suis pas capable de la diriger, parce que vous savez, pendant 20 ans, à force d'entendre ça, vous finissez par le croire. Donc ça, c'est aussi peut-être un peu le mal qui m'a fait. Moi, j'essayais de lui expliquer toujours que j'avais une façon différente de diriger que lui. Effectivement, lui avait un modèle en tête et il voulait reproduire ce modèle. Et c'est pour ça que pour lui, ça aurait été plus facile. Et je pense que finalement, c'est plus facile avec mon fils, puisque mon fils est technicien et c'est un garçon. Donc ça correspond à son modèle. Je ne correspond pas à son modèle au départ.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons de la rivalité père-fille avec Daniel Brun. Daniel Brun, vous avez pris beaucoup de notes pendant ce témoignage d'Eva Escandon, qui est un témoignage d'ailleurs, je trouve, assez extraordinaire. Alors j'imagine que vous avez plein de choses à nous dire.
Bah, je pense que l'essentiel est dit dans ce témoignage. Et notamment les difficultés du père quand le temps de la succession arrive. Et ce qui est très bien dit, c'est que c'est son bébé. Donc il y a tout l'aspect maternité du père, maternité de l'homme, qui se focalise sur l'entreprise et qui évidemment...
C'est dur quand ça vous échappe en vieillissant.
Lui échappe. Alors, ce qui est aussi très remarquable dans ce témoignage, c'est le clivage dans lequel ça met la fille pour assumer sa vie professionnelle et la gestion de l'entreprise, tandis que quand même... pardon... sa vie privée la confronte à l'amour qu'elle a pu avoir pour ce père qui l'a placé là. Donc il y a un clivage. Et puis aussi, ce qui est très important, me semble-t-il, c'est la parole du père, le poids de la parole du père et l'effet de cette parole quand il lui dit « mais tu n'es pas capable » et comment elle est obligée de se refermer sur elle-même pour se convaincre de ce qu'elle est, qui n'est pas conforme à l'image que son père donne d'elle.
Et là-dessus, justement, une femme ou un homme réagit de façon différente par rapport à ce que peut dire son père. C'est-à-dire qu'on sent dans son témoignage que ça a été plus dur pour elle de se convaincre qu'elle était capable de diriger l'entreprise. Est-ce qu'un homme a plus de distance par rapport à ça?
Par rapport au corps, le corps du garçon le corps du garçon est le même que le corps du père et le corps de la fille est le même que le corps de la mère. On n'a pas encore dit quelque chose de la mère, mais quand le père se fâche contre la fille, on peut imaginer qu'à la maison, il monte la mère contre sa fille. Donc c'est une situation qui est compliquée.
Comment se passaient les elle l'évoque plus ou moins. Comment se passaient les déjeuners du dimanche, d'ailleurs, dans ces cas-là?
Je ne sais pas s'il y en avait. C'est pas sûr qu'il y en avait. Mais ce qui est aussi intéressant dans ce témoignage, c'est comment la fille peut se récupérer dans sa propre maternité et dans la relation à son fils, qui est plus paisible.
Dans le témoignage d'Eva Escandon, moi, le sentiment que j'ai en l'écoutant, c'est qu'on aurait pu entendre quand même la même chose de la part d'un fils. C'est-à-dire que finalement, est-ce que c'est très particulier comme rivalité père-fille dans ce genre de situation ? Est-ce que ce serait pas exactement la même chose avec un fils ?
Non, je pense pas, parce qu'il y a le poids de l'image qui est très bien restitué dans ce témoignage d'Eva Escandon, le poids de l'image qui est l'image de la fille qui est en position de faiblesse, ou en tout cas notamment par rapport au projet technicien. Et donc là, la fille, elle est porteuse d'une image d'infériorité dont toutes les femmes aujourd'hui tentent de se défaire, mais dont on perçoit le poids, notamment chez les pères vieillissants qui sont encore attachés
à une image ancienne de la femme.
À une image ancienne de la femme.
Se joue aussi ça, finalement, la place de la femme dans une entreprise comme ça, au-delà du rapport familial, c'est ça que vous êtes
tout
en train de nous dire, finalement.
Tout à fait. Maintenant, la fille du patron, ça se voit aussi beaucoup en médecine.
Oui.
Ça se voit beaucoup en médecine. Quelle place on va accorder à la fille du patron et comment elle va faire son chemin.
Elle-même, on a vu ça aussi. On a au téléphone Adja qui nous appelle du Sénégal et qui avait envie d'apporter un témoignage. Adja, bonjour.
Bonjour Claire.
Quand on a parlé de rivalité père-fille, apparemment ça vous évoque quelque chose.
Oui, je me suis sentie concernée parce que hier, vous en parliez, ça m'a fait un peu rigoler. Je me suis dit que je vais participer à l'émission aujourd'hui.
Alors racontez-nous.
Donc, je disais, mon père, étant enfant, était mon idole, mon mentor, je ne sais plus que je lui ressemblais. D'ailleurs, je porte le monument de ma grand-mère paternelle, ce qui est très important en Afrique. Donc, il constituait mon repère. Et je faisais tout ce qu'il voulait, il m'a incité à étudier, m'encourager pour pas me réaliser plus tard. Et étant adolescente, je m'affirmais un peu plus et je lui ressemblais un peu plus. Et en général, dans la famille, ils disent que mon père est assez autoritaire, donc voilà, il faut faire tout ce qu'il veut. Et les problèmes ont commencé quand j'ai commencé à travailler et que j'ai voulu un peu participer dans les charges de la maison. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Mais il s'est dit que peut-être qu'en me laissant faire, il allait perdre une partie de son pouvoir parce que j'ai commencé à dire un peu mon mot dans ce qui se passait dans la gestion familiale, etc. Et ceci, il ne l'a pas du tout apprécié. Ouais. Donc, quand je voulais faire quelque chose, il me disait non, je ne veux pas que tu le fasses.
Là, vous avez un exemple à nous donner ? Vous avez un exemple à nous donner ?
Par exemple, j'ai voulu faire des réflexions à la maison parce que j'estimais que si on changeait le salon et qu'on agrandissait un peu et qu'on l'embellissait un peu plus, ce sera plus joli et plus accueillant. Quand je lui ai parlé du projet, il s'y est carrément opposé. Il ne voulait pas du tout. Et moi, j'ai été obligée de battre en retraite, d'y associer ma mère et... Finalement, il a fallu que ma mère prenne cet argent et qu'elle lui dise que c'est elle qui voulait faire les réflexions à la maison.
Et juste, Adja, on va vous répondre après les informations de façon plus longue. Juste une question, j'avais envie de vous demander, vous avez quel âge ?
Là, j'ai 31 ans et c'est devenu encore plus compliqué parce que je suis encore célibataire.
Oui, donc vous êtes encore à la maison ou vous êtes encore chez les parents ?
Oui, parce qu'en rentrant, je voulais prendre mon appart et tout parce que j'avais déjà l'habitude de vivre seule, etc., de me prendre en charge. Mais il s'y est opposé de manière très, très, très farouche parce qu'il faut dire qu'au Sénégal, c'est très mal vu qu'une fille célibataire ait son appart et vive seule.
La tradition.
Oui, la tradition. Donc, mais vous savez, chez nous, c'était ça il y a pas si longtemps non plus. Donc finalement, ce que vous nous racontez n'est pas si vieux que ça. Vous restez en ligne avec nous, Adja, parce que Daniel Lebrun va avoir certainement pas mal de choses à vous dire. Merci pour ce témoignage. On se retrouve, Adja, dans 3 minutes, juste après les informations, toujours pour parler de cette rivalité père-fille.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des rivalités père-fille, hein, même si on a souvent plus en image cette rivalité entre les pères et les fils, mais elle existe aussi entre les pères et les filles. On en parle avec Daniel Brun, qui est psychanalyste, membre d'Espace Analytique, présidente de la société Médecine et Psychanalyse, professeur aussi émérite à l'Université Paris-Diderot. Elle a publié L'insidieuse malfaisance du père aux éditions Odile Jacob et tout récemment Une part de soi dans la vie des autres, un téléphone, le 33 1 84 22 75 75. Juste avant les informations, on était en ligne avec Adja du Sénégal, qui est toujours avec nous, d'ailleurs, qui nous racontait à quel point elle a adulé son père quand elle est devenue adolescente, qui l'a beaucoup aidé d'ailleurs à réussir dans ses études, aujourd'hui de coup dans sa vie professionnelle. Elle vit toujours chez ses parents à 31 ans, et là elle dit que c'est un peu compliqué parce que son père est pas forcément très content des choix qu'elle peut faire, ou en tout cas des envies qu'elle a, par exemple, à la maison. Daniel Brun, vous avez probablement envie de réagir à ce que nous a dit Adja.
Oui, c'est un joli témoignage elle a mentionné au passage le lien entre son père elle a mentionné l'importance de sa grand-mère maternelle. Autrement dit.
Paternelle.
Alors justement, c'est ça. J'ai fait. Donc le lien de son père en tant qu'homme avec sa propre mère. Et peut-être que elle est dans cette situation entre deux où, son père l'a promue et l'a investie, et que aujourd'hui il a un peu peur de ce qu'elle est devenue, parce que aussi c'est son œuvre à lui, et donc lui il est en recul par rapport, et elle voudrait continuer d'avancer, donc il y a un genre de contradiction interne que le père manifeste quand il veut pas que ses murs,
par exemple,
changent,
qu'elle réaménage le salon,
et donc il ne peut accepter que si c'est sa femme à lui, donc la mère d'Adja, qui accepte. Donc moi, ma question, c'est qu'est-ce qui vient freiner le projet d'Adja d'habiter par elle-même. Qui vient freiner, qu'est-ce qu'elle peut redouter de ce que deviendrait son père, ou des liens qui... Qu'est-ce qu'elle redoute qui l'empêche
Adja,
de partir?
Effectivement, vous êtes qu'est-ce que vous répondriez là à Daniel Brun? Pourquoi finalement vous n'arrivez pas à partir et à prendre un appartement, à vous installer toute seule?
Non, parce que je ne veux pas le faire sans l'aval de mes parents, parce que c'est pas bien ici, c'est très mal vu. Et vu que mon père, quand même, il donne de très bons conseils en général. Mais on est en contradiction sur plein de choses. Donc, je n'aimerais pas frustrer mes parents. Oui. Je voudrais toujours être en accord et toujours les impliquer dans mes décisions, qu'ils m'accompagnent dans ça.
C'est très, très intéressant ce que vous dites, Adja.
Elle n'entre pas dans le domaine de la rivalité.
En conflit. C'est très intéressant ce que vous dites, Adja. Il y a certains moments où il faut prendre des décisions pas forcément en accord avec ses parents quand on est adulte.
C'est
compliqué.
C'est inévitable en
c'est
même
inévitable.
Temps.
C'est inévitable, mais c'est ça qu'il faut accepter. Et Adja, j'ai cru comprendre dans votre témoignage tout à l'heure que vous aviez aussi envie de conseils pour apaiser cette relation avec votre père, Daniel Brun. Oui. Oui, je vous écoute, Adja.
Moi, je suis quelqu'un d'assez conciliante. J'aime bien que tout le monde soit en paix à la maison, parce que cette situation a créé un climat délétère, et mes petits frères et petites sœurs, ils sont à peu près d'accord avec moi, parce que je pense qu'ils sont de la même génération. Ils veulent s'affirmer un peu plus, mais mon père, qui est de l'ancienne génération, il s'y oppose. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un conflit générationnel. Et je voudrais retrouver le climat, l'ambiance familiale d'avant, l'enfance qu'on avait.
Alors, Daniel,
on comprend, c'est la nostalgie. C'est la nostalgie de l'avant, où il n'y avait pas de conflit entre les générations. Et là, Adja vous expliquait très bien que finalement, vous trouvez une alliance dans votre fratrie. Et donc, on entend bien la différence d'âge.
Docteur Solano.
Oui, moi je dirais bien, je suis étonnée, votre père vous a dit non, je veux pas que tu partes habiter toute seule, mais un non c'est un non, mais on peut toujours redemander. Et quand je vois comment vous avez réussi à le retourner comme une crêpe, c'est comme on dit chez moi, pour changer le mobilier, en demandant à votre mère de vous soutenir, vous pourriez demander, moi j'ai plein d'idées pour vous, hein. Vous pouvez demander à votre mère d'appuyer votre envie de vivre toute seule, vous pouvez lui dire, mais qu'est-ce que ça serait pour toi les conditions pour que je vive seule, est-ce que ça serait que je
soit moins de 100 mètres? Est-ce que ce serait que, que je parte avec un frère ou une sœur? Est-ce que, etc. Il y a sûrement, est-ce que tu voudrais seulement que je le fasse si je me marie? Mais si je reste chez vous nuit et jour du 1er janvier au 31 décembre, ça va être dur de trouver un conjoint aussi, hein. Et etc. Donc, je pense qu'il faut, il faut pas non plus vous décourager.
Peut-être accepter un moment que le papa soit pas d'accord avec une décision de la fille.
Non, parce que là, j'ai tellement entendu qu'on ne peut même pas engager une conversation. Là, au moment où je vous parle,
c'est compliqué.
Elle veut pas.
Adja, quand même, restez en ligne avec nous parce qu'on a Mamadou Mbodj au téléphone, qui est un Sénégalais, qui va peut-être pouvoir vous donner des bons conseils plus faciles que nous, vu de Paris. Mamadou Mbodj, bonjour.
Oui, bonjour Claire Edo.
Vous êtes psychologue, psychothérapeute à Dakar au Sénégal. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Adja là? Est-ce que d'abord, moi j'avais en fait une question à vous poser. Est-ce que c'est possible pour une jeune femme de 30 ans d'aller s'installer seule à Dakar?
Alors, je vous dis tout de suite non.
Ah oui, moi j'aurais répondu oui.
Elle n'a aucune, à ce moment-là, elle mettrait fin à tout espoir de mariage, à toute insertion sociale et toute considération des siens. S'il y a encore un bastion que les femmes ont du mal à écarter, à combattre, à surmonter, c'est vraiment celui-là. On voit même des femmes, mères de famille divorcées, qui sont obligées de retourner s'entasser avec leur progéniture dans la maison familiale, alors qu'elles avaient la possibilité ou d'obtenir un logement de fonction, ou en tout cas de louer par leurs propres moyens un appartement.
Je suis très étonnée, Mamadou Mbodj, je suis très étonnée de ce que vous dites.
C'est vraiment une réalité qui est encore très prégnante. Et je veux dire que, Adja ne vous le dira peut-être pas, mais à ce moment-là, elle pourrait mettre vraiment fin à tout espoir de se marier, toute considération de la part des siens.
Prendre des risques alors.
Mais alors moi qui suis sexologue, pourquoi? Parce qu'on va se dire qu'elle va coucher avec tout le monde, c'est ça?
Absolument. D'abord ça, oui, elle va coucher avec tout le monde. C'est des libertés.
C'est lamentable.
Je dis, elle va avoir une vie qu'elle ne peut pas avoir tant qu'elle reste avec la famille.
Moi, je vais vous dire, j'ai vécu ça en France aussi. Quand je suis partie étudiante en médecine, j'étais toute seule. Bon, bah, j'habitais toute seule. Ma mère était persuadée que je devrais
que
pas
raconter ça. Vous meniez une folle vie.
Oui, ce qui n'était pas le cas. J'ai travaillé, mais vous voyez,
il y a non seulement la résistance sociale, l'interdit qui est là, mais il y a également la manière dont cet interdit est porté par les individus comme Adja.
J'entends bien.
Elle a raison sur la ligne, mais elle ne vous dira pas que son rêve, elle n'a aucune chance de le réaliser. Pourra envisager de quitter la maison qu'une fois mariée, à moins maintenant
mais
qu'elle
si
aille
avec
dans
une
un autre pays.
Daniel Brun.
J'entends bien le poids de l'interdit et le poids de la tradition. Et justement, il y a un lien qui se fait entre l'interdit formulé par le père, qui est appuyé en cela par le poids de la tradition. Mais qu'est-ce qui fait que personne ne prend le risque de la transgression? C'est quand même une vraie question. Aujourd'hui, en 2015, qu'est-ce qui fait que personne ne prend le risque de la transgression? Et quel est l'enjeu de ce risque? Parce que si c'est juste de dire « elle se mariera jamais »,
Mamadou Mbodj, moi oui c'est ça, mais surtout pour moi ça veut dire autre chose, ça veut dire quelque chose sur les hommes sénégalais, c'est ce que vous êtes en train de me raconter.
Vous
mais sur les hommes, ça veut dire quelque chose, ce que vous êtes en train de nous raconter, Mamadou Mbodj, on sort du sujet rivalité père-fille, mais ça sort, ça dit aussi quelque chose sur les hommes sénégalais de la trentaine, ils peuvent pas être intéressés.
Absolument, mais ils sont parvenus aussi par l'éducation à faire des femmes les propres gardiennes de toutes ces valeurs qui les asservissent aussi.
C'est exactement Totem et Tabou, le meurtre du père de la Horde. C'est exactement ça.
Et ce ne sera pas tant le père qui va s'y opposer que la mère. Parce que pour l'instant, c'est le père qui est monté au créneau par peur d'être enterré vivant. Parce que le pouvoir économique que commence à manifester Adja, à bon escient d'ailleurs, pour participer aux charges de la maison, et qui voit une sorte d'enterrement en première classe du père. Et l'autoritarisme reste pour ce père le dernier bastion, la dernière force qui lui reste, si vous voulez, pour assurer encore son autorité.
C'est le poids du symbolique
Absolument.
Quand même.
Oui, c'est compliqué.
Alors, maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que pour revenir, c'est que tous ces liens et sentiments extrêmes, Adja en parle, votre auditrice précédente en a parlé aussi, sont fonction de la manière dont chacun des deux composantes, père et fille, est investi par l'autre. Au-delà même des fonctions respectives initiales.
Peut-être, mais quand même, dans ce que vous dites, Le rôle de la mère est important puisqu'elle soutient le père contre sa fille. Donc, absolument, on ne peut pas envisager la rivalité père-fille en laissant de côté des relations potentiellement conflictuelles avec la mère qui handicape la fille dans son projet de liberté et d'autonomie. C'est quand même très...
Et ça se joue à trois, finalement. C'est ça qui est intéressant.
Ça se joue à trois.
Ce qu'on ne vous dit pas,
et à quatre avec la tradition.
Ce qu'on ne dit pas, c'est que pour l'instant, c'est le père, mais les difficultés que pourrait rencontrer Adia de la part de sa mère sont encore plus considérables que celles auxquelles elle est confrontée vis-à-vis du père.
Oui. Alors encore une fois, c'est la question de la prise de risque.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vaut le coup? En tout cas, merci Adja pour ce témoignage. J'ai envie de vous dire vraiment bon courage à vous pour prendre les bonnes décisions qui vous rendent vous la plus heureuse et la plus libre de choisir la vie qui vous convient. Mamad Mboua, je voudrais revenir sur ces questions quand même de rivalité père-fille. Vous avez entendu ce qu'on a évoqué dans la première partie de l'émission. On a parlé de l'histoire de la famille Le Pen. On a aussi entendu ce magnifique témoignage de cette chef d'entreprise Eva Escandon. Est-ce que vous avez des situations un peu équivalentes au Sénégal?
C'est exceptionnel pour ne pas dire inexistant, je veux dire, ce genre de situation. En tout cas, si on prend la question de la famille Le Pen, c'est vraiment un cas rare et personnellement, je n'en ai jamais vu. Alors, j'ai eu à m'occuper effectivement de problèmes ou de gens confrontés à un problème de rivalité père-fille, si vous voulez, mais comme disait Madame Lebrun, la rivalité père-fille est une affaire d'adultes évoluant soit dans le cadre d'une entreprise familiale, soit dans le même domaine de compétences. D'accord? Alors, comment le problème auquel sont confrontées les filles, comme d'ailleurs les garçons aussi, les hommes, c'est que la personnalité, la figure paternelle est de tout temps condensée ou dissoute dans l'image de l'ancêtre, quelque part. Et même aujourd'hui, je veux dire, dans l'environnement urbain, avant même de parler de rivalité père-fille, on parlera de deux protagonistes évoluant, si vous voulez, comme dans des couloirs aériens, vraiment qui sont dans deux univers différents, dans deux espaces de vie, même s'ils sont dans la même maison, avec très peu de risques de télescopage ou de connexion. Le cas d'Aya, même si c'est des cas qu'on rencontre, est quand même une exception. Parce que l'organisation sociale et familiale et les rapports de genre étaient tels que les contacts entre père et fille étaient réduits à leur plus simple expression, pour ne pas dire inexistants. Peu de communication, peu d'occasion de confrontation, beaucoup de pudeur et d'admiration sourde, quelque part. Mais aujourd'hui, dans l'univers des familles dites nucléaires, qui sont susceptibles de permettre plus de proximité, de connexion et d'occasion de confrontation entre père et fille, lorsque cette rivalité surgit entre eux, elle est habituellement feutrée. Elle est sourde et tourne essentiellement, comme ailleurs, autour de la réussite scolaire et ou professionnelle.
C'est ça, mais c'est pas frontal. Alors, comme on peut venir de l'entendre. Une réaction par rapport à ça?
Oui, il y a une notion dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant et qui est quand même très importante dans la relation père-fille, parce que l'un est un homme et l'autre est une femme, c'est la question de la séduction. Et on voit très bien comment les petites filles savent déjà séduire leur père, et on peut se demander ce que devient cette séduction lorsque le conflit émerge et entre dans le champ de la rivalité. Et ça, c'est quand même beaucoup plus fréquent, la question de la séduction entre père et fille qu'entre père et fils.
C'est ça, et du coup, c'est là que ça se différencie, cette rivalité, finalement, entre les pères et les fils et les pères et les filles.
Il y a quand même le rapport au corps et le rapport à la séduction qui ne peut pas être complètement laissé de côté, quel que soit le poids de la tradition, selon les endroits.
Je voudrais qu'on prenne un dernier témoignage avec Fatou, qui nous appelle du Mali. Fatou, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Fatou.
Oui, en fait, moi, j'aimerais apporter mon témoignage.
Parlez bien. Fatou, la ligne téléphonique n'est pas très bonne avec le Mali. Si vous pouvez parler bien près du téléphone.
D'accord. Je disais que je voudrais apporter mon témoignage par rapport à un thème. Moi, j'ai fait de mon père.
Alors, Fatou, je suis désolée, pardon, la ligne téléphonique est vraiment très mauvaise, on n'arrive pas du coup à vous entendre. Si vous permettez, je vais juste lire le témoignage que vous avez laissé au Standard, parce que votre histoire me paraît très intéressante. Vous avez dit jusqu'à vos 15-18 ans, vous avez été très proche et très complice de votre père. Votre histoire ressemble un peu à celle d'Adja, hein, d'ailleurs. Puis vous êtes parti faire des études à l'étranger, vous avez trouvé un travail là-bas, et les affaires professionnelles de votre père ont commencé à aller mal. Du coup, vous êtes revenu au Mali pour aider financièrement la famille. La rivalité s'est fait ressentir, votre père n'a pas réussi sa vie professionnelle. D'ailleurs, vous lui en voulez un petit peu pour ça. Au bout de 6 mois, vous dites, on a commencé à se déchirer, on a eu des altercations violentes, ce qui d'ailleurs est rare en Afrique. On est maintenant en paix, mais la relation a changé. Je vis toujours avec lui car je suis célibataire, mais même pour recevoir des hommes à la maison, c'est très compliqué. Comment faire pour vivre avec lui et apaiser les tensions? Il y a toujours une demande du comment apaiser les tensions, Daniel Brun.
Comment apaiser les tensions?
J'imagine qu'on vous demande ça aussi beaucoup dans votre cabinet de psy.
Oui, bien sûr. Là, ce qui est quand même important, c'est la distance géographique. Je suis partie faire mes études à l'étranger. Ça, c'est très important parce que c'est une première distance mise avec le père. Donc, quand on revient, on peut pas effacer cette distance. Et donc, quand on revient, comment rétablir une distance tout en restant dans le même lieu? Donc, c'est un vrai enjeu. Comment faire pour vivre avec lui et apaiser les tensions? Ça veut dire comment faire pour qu'il accepte les hommes que je pourrais recevoir à la maison sans se sentir en rivalité avec les hommes avec lesquels je ne suis pas en conflit. C'est quand même une vraie question aussi dans la relation père-fille. Sont les hommes qu'elle aime et par rapport auxquels le père peut se sentir moins aimé. Il est plus le favori de sa fille.
Et c'est compliqué pour les pères.
Et c'est compliqué pour les pères. Et c'est compliqué pour les filles parce que la voix des filles les mène à aimer d'autres hommes. Et pas le père.
Et cette histoire-là, ça explique un peu peut-être la question de la rivalité père-fille, justement.
Je pense que ça explique pas mal, oui. Oui.
Merci beaucoup, hein, Daniel Brun. Si vous voulez bien, on va terminer justement avec la chronique sexualité de Catherine Solano. Merci beaucoup aussi à Mamadou Mbodje, psychologue et psychothérapeute à Dakar, au Sénégal.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Catherine Solano, vous allez nous parler aujourd'hui d'un sujet vraiment très délicat, des tests de virginité. D'après les informations qu'on a, l'armée indonésienne inflige des tests de virginité aux femmes qui postulent pour entrer dans l'armée, ainsi qu'aux femmes qui se fiancent à un soldat dans cette même armée. Tout d'abord, Catherine, en quoi consistent ces tests, contre lesquels d'ailleurs proteste l'association internationale Human Rights Watch?
Alors, les tests de virginité, d'abord, il faut dire que ça n'a absolument aucune valeur scientifique. Personne ne peut dire, en examinant une femme, si elle est vierge ou pas, c'est-à-dire si elle a eu des relations sexuelles ou si elle n'en a pas eu, et même un gynécologue ne peut pas le faire. Il peut seulement observer dans quel état est l'hymen de cette femme. Et ça n'a rien à voir avec la virginité, parce que chez certaines femmes qui sont assez nombreuses, il n'y a pas d'hymen. Chez d'autres, l'hymen est très large, il pourrait même y avoir un rapport sexuel sans qu'il soit déchiré. Et puis, chez d'autres, donc il est intact. Et en sens inverse, il y a des jeunes filles qui ont un hymen déchiré, et qui n'ont pas eu de rapport sexuel simplement parce qu'il y a beaucoup de... Comme les petits garçons touchent leur sexe quand ils ont 2 ou 3 ans, il y a beaucoup de petites filles qui vont explorer l'intérieur de leur vagin avec un doigt, qui peuvent très bien déchirer leur hymen. Elles s'en souviennent pas du tout et pourtant elles sont vierges. Et dans les tests de virginité, ça n'existe pas. En gros, ça serait faux dans 50% des cas, c'est-à-dire c'est validité zéro.
C'est ça. Donc
zéro.
Premier point, aucune valeur scientifique aucune. À ces tests de virginité. Pourtant, quand une femme a été agressée sexuellement, il est bon qu'elle aille voir un médecin. Alors pourquoi?
Voilà, c'est pas du tout la même chose. Le médecin, ce qu'il fait quand une femme se dit j'ai été agressée sexuellement, j'ai subi un viol, il va lui faire un prélèvement pour voir s'il y a du sperme et pour pouvoir, grâce aux cellules qui sont dans le sperme, identifier l'agresseur. Ensuite, il voit aussi si l'hymen vient juste d'être déchiré, parce qu'il peut y avoir des lésions ou des saignements, ou s'il y a des déchirures vaginales. Donc il va observer tout ça et le mettre sur son certificat, mais il peut pas forcément dire avant elle était vierge ou elle était pas
et
vierge,
et c'est pas ce qu'on lui demande. Comment se passent ces soi-disant tests de virginité? Parce que là, on rentre dans le sordide.
Voilà, alors là, c'est vraiment horrible. Donc, la personne qui fait le test de virginité demande à la jeune femme de se déshabiller entièrement, de s'allonger, d'écarter ses jambes. Ensuite, la personne va observer la zone sexuelle externe et puis introduire 2 doigts dans le vagin. D'ailleurs, on appelle ça le test des 2 doigts. Et donc, c'est une pratique qui est abominable simplement parce que c'est une agression terrible pour plusieurs raisons. D'abord, c'est parce que vous soyez un homme ou une femme, mon corps est à moi. Personne n'a le droit d'y accéder si je ne suis pas d'accord, si je lui en donne pas l'autorisation. Et c'est vrai pour toute la zone corporelle, pas seulement la zone sexuelle. Deuxièmement, quand on est une jeune femme vierge, qu'on n'a jamais eu de rapport sexuel, introduire deux doigts dans le vagin, ça va déchirer l'hymen, donc elle peut avoir mal et saigner, et donc sous prétexte de vérifier si elle est vierge, on va déflorer une jeune femme. C'est vraiment une honte, quoi. Ensuite, introduire un ou plusieurs doigts dans un vagin, c'est une pénétration sexuelle, et si la femme n'est pas d'accord, c'est un viol, pour la loi, c'est un viol. Donc,
en tout cas, pour la France,
c'est... En France, c'est un viol, et donc c'est un crime. Et en plus, ce qui est vraiment catastrophique, c'est que ça peut entraîner un traumatisme très grave. Et donc, on a vu comme ça un reportage où il y avait une jeune femme qui disait, moi, 4 ans après avoir passé ce soi-disant test, je me suis mariée, je suis partie en lune de miel, en voyage à Bali, et on a voulu faire l'amour, et ben mon corps était trop raide, je pouvais pas ouvrir mes jambes, je pleurais toute la nuit, et c'était à cause de ce traumatisme. Et une autre jeune femme disait dans le même reportage, pour moi, c'est pas seulement un acte humiliant, c'était une torture. Pour vous dire à quel point c'est agressif.
Et docteur Solano, quand même, c'est quoi la différence avec un examen gynécologique où il y a un toucher vaginal?
Alors, c'est pas du tout la même chose. D'abord, on ne pratique pas d'examen gynécologique sur une jeune femme vierge. Ça ne sert à rien la plupart du temps. Et par exemple, quand une jeune femme dit, moi, je veux une contraception, je voudrais prendre la pilule, par exemple, eh ben, il n'y a pas d'examen gynécologique.
Ça, il faut bien le dire et le redire. Premier rendez-vous chez le gynécologique sans qu'il y ait eu de relation sexuelle avant.
Voilà, on lui fera pas d'examen gynécologique, on lui fera l'ordonnance de la pilule sans examen. Alors, quelquefois, quand même, le gynécologue doit examiner une jeune femme vierge, elle peut avoir une mycose, par exemple, ou des problèmes gynécologiques, quand même. Donc, il va regarder l'extérieur de la vulve, quoi. Donc, il regarde. Et dans certains cas, qui sont quand même encore beaucoup plus rares, il peut avoir besoin de faire quand même un examen intravaginal. Mais dans ces cas-là, il va pas faire un toucher vaginal, déjà. Il va utiliser un spéculum, c'est-à-dire un petit appareil, mais qui est un spéculum pour femmes vierges, donc qui est très petit pour ne pas déchirer son hymen.
Donc, grosse différence entre ces tests de virginité
et l'examen
gynécologique.
Et puis, en plus, il lui demande l'autorisation. Il doit lui expliquer avant, lui dire, je suis obligée de, pour voir ce que c'est, je vais vous examiner, voilà ce que je fais, est-ce que vous êtes OK?
Mais docteur Solano, comment se fait-il qu'on continue à pratiquer ce type de soi-disant test de virginité?
En fait, le porte-parole de l'armée indonésienne, donc où ça se pratique, qui s'appelle Fouad Beissa, a déclaré que ce test avait pour but d'assurer que l'hymen des nouvelles recrues était intact, afin d'être certain de recruter les meilleures personnes, à la fois physiquement et mentalement, pour parfaire les rangs de l'armée. C'est complètement stupide, on voit pas pourquoi une femme vierge serait une meilleure militaire qu'une autre. Il y a des femmes mariées qui sont militaires, voilà. Et puis, on peut se demander si dans le fond, la vraie réalité, c'est pas qu'il y a des personnes qui sont des voyeurs et qui ont des tendances sadiques et du coup, et qui sont excitées à faire perdurer cette pratique.
Ouais. C'est d'autant plus choquant que l'Indonésie a ratifié l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 16 de la convention contre la torture. Et cette pratique du test de virginité est reconnue internationalement comme une violation des droits de l'homme, en particulier l'interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais l'Indonésie est-elle seule en cause?
Mais pas du tout, parce que même en France, les médecins sont parfois confrontés à des demandes de certificat de virginité, ce qui est anormal et même illégal. On ne devrait pas en faire, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on aille fourrer notre nez médical dans l'intimité des jeunes filles. Elles ont le droit à leur intimité. Et donc, je vais citer un médecin qui est le président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, le professeur Jacques Lansac.
L'ancien, je crois que c'est plus lui aujourd'hui.
Ah oui, c'est l'ancien. C'est lui qui avait lancé cette polémique. Il disait, le Conseil national de l'ordre des médecins considère que le certificat de virginité n'a aucune justification médicale et constitue une violation du respect de la personnalité et de l'intimité de la jeune femme. Un médecin doit donc refuser la rédaction d'un tel certificat car il est contraire à la dignité de la femme.
Alors on nous pose quand même, docteur Solano, souvent cette question, comment savoir si une femme est vierge?
Eh bien, il n'y a qu'une seule solution pour savoir si une jeune femme est vierge, c'est de lui demander, de lui faire confiance. Il n'y a que elle qui sait si elle a eu des rapports sexuels ou pas.
Merci beaucoup, docteur Solano. Comme d'habitude, on retrouve votre chronique sur le blog de l'émission, sur notre site internet rfi.fr, dans la rubrique Priorité Santé. Et comme tous les jeudis, on répond aussi à une question d'auditeur. On a Magloire. Magloire au téléphone. Bonjour, vous nous appelez, je crois, du Togo.
Oui, bonjour, madame.
Bonjour, on vous écoute, Magloire.
Oui, en fait, mon inquiétude se situe au niveau de mon petit garçon qui a 16 mois. Il a une érection quasi régulière. Surtout, et puis lorsqu'il dort, on remarque qu'il a une forte érection et après quelques secondes, ça se ramollit, le pénis se ramollit. Ou quelquefois, lorsqu'il n'est pas avec sa maman, il est avec une autre jeune femme ou jeune fille. Il suffit de toucher les seins de cette dernière et paf, il a une érection. Bon, mon inquiétude, je voudrais seulement savoir si je ne dois pas m'inquiéter.
Alors, merci beaucoup pour cette question, parce qu'on en a eu plusieurs qui sont arrivés du même domaine. Docteur Solano.
Alors, donc, ce que je peux vous dire, c'est vous rassurer, c'est que votre petit garçon est tout à fait normal. Tous les petits garçons du monde ont des érections, et pas seulement à 16 mois, à partir de la naissance, et même avant la naissance dans le ventre de leur maman, et vous aussi, vous en aviez à son âge, tout le monde en a. Donc...
Mais pourquoi un si petit garçon quand même a des érections?
Et bien tout simplement parce que les corps érectiles ont besoin d'entretenir leur élasticité pour un jour, peut-être dans 18 ans ou 15 ans, je sais pas, pour pouvoir fonctionner quand il aura ses premières relations sexuelles. Parce que les corps érectiles du pénis sont extrêmement élastiques et distendus. Et s'ils ne se distendaient pas tous les jours et très régulièrement, et ben ils deviendraient rigides et ils seraient incapables de se déployer. Donc un jour, ils seraient incapables d'avoir des relations sexuelles. Donc ce phénomène d'avoir des érections spontanées existe de avant la naissance jusqu'à la mort chez tous les hommes. Tous les hommes pendant la nuit ont des érections et ça
c'est
entretient.
C'est pas forcément sexuel. Et chez les petites filles, est-ce qu'il y a un phénomène à peu près équivalent?
Tout à fait. Toutes les nuits et même dans la journée aussi, les petites filles ont un gonflement du clitoris et une lubrification vaginale, pareil pour entretenir leur zone génitale, mais comme personne ne le voit, personne ne nous pose jamais la question, et je le dis quand même.
Merci beaucoup en tout cas Magloire pour cette question. Demain, on parlera des AVC, des accidents vasculaires cérébraux, comment mieux les prendre en charge après les AVC, comment faire la rééducation. Un téléphone, hein, si vous avez envie de participer, le 33 1 84 22 75 75, et bien sûr, comme toujours, les réseaux sociaux pour nous laisser des messages. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé, et à demain. Thank you.